Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, avant-dernière conversation sur les archives. Les archives, on l'a vu avec Yann Potin, avec Anne Simonin hier. Ça sert évidemment aux historiens, mais pas seulement. Il y a toutes sortes d'usagers aux archives, et qui mieux que les archivistes eux-mêmes, ceux qui dirigent les centres d'archives, peuvent nous le donner à voir. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à accueillir Guillaume Nahon, qui est directeur des archives de Paris. Bonsoir Guillaume Nahon.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Les archives de Paris, c'est les archives communales et départementales. Au fond, c'est une des spécificités que lègue l'histoire.
Absolument. Donc c'est un service qui a une double compétence communale et départementale. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, suite à la réforme du statut de Paris et à la fusion de la commune et du département, les archives de Paris deviennent le service d'archives de la ville de Paris. Voilà, donc avec cette double compétence sur les archives de la municipalité et des services de l'État à l'échelle du département.
Elle se trouve boulevard Serrurier.
Absolument, Porte des Lilas.
Au métro et Porte des Lilas. Très beau bâtiment d'ailleurs.
Alors, un bâtiment qui est un assez beau bâtiment, effectivement, qui a été construit en 1990 par Henri Gaudin, mais malheureusement inachevé, puisqu'il lui manque un troisième silo qui n'a jamais été construit.
Alors, les archivistes aiment bien donner leur kilométrage de rayon. Et donc, les archives de Paris, Guillaume Nahon, c'est combien ?
68 kilomètres linéaires.
Donc, c'est quand même considérable.
C'est considérable, oui. Enfin, c'est un bon service d'archives départementales et communales. Malgré des accidents de l'histoire particulièrement catastrophiques pour les archives de Paris, qui sont évidemment l'incendie de l'hôtel de ville en 1871 au moment de la commune, qui nous a privé de la quasi-totalité des archives antérieures à 1860, et est également un autre accident, alors qui est plus favorable aux archives en général, mais un peu défavorable aux archives de Paris en particulier, qui sont la création des archives nationales au moment de la Révolution, puisqu'au moment de la création des archives nationales, l'ensemble des archives des institutions supprimées par la Révolution ont été transférées aux archives nationales, enfin dans les différents dépôts à l'époque gérés par les archives nationales, et ils sont restés. Alors, c'est un manque à gagner pour les archives de Paris, mais pour les usagers, c'est une grande chance, puisque ces archives sont aujourd'hui conservées aux archives nationales et non pas brûlées pendant la commune. Donc, en fait, les archives départementales de la Seine, en quelque sorte, pour le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, elles sont conservées aux archives nationales.
Vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis avant, Guillaume Nahon. Est-ce que je peux vous poser une question toute simple? Vous aviez envie d'être archiviste quand vous étiez enfant? C'est quoi la vocation, au fond, d'un conservateur d'archives?
Alors, pas du tout. J'avais envie d'être architecte, pour vous dire la vérité. Et donc, c'était mon rêve d'enfant. Et j'ai commencé, après le bac, une année d'architecture que j'ai arrêtée tout de suite parce que j'ai vite compris que c'était pas du tout ma vocation. Et donc, j'ai ensuite entamé des études d'histoire de manière très classique à la Sorbonne. Et je suis arrivé aux archives par ma maîtrise d'histoire, comme des génération entière d'étudiants en histoire, donc, et je suis rentré aux archives nationales tout à fait par hasard, à l'occasion, en 1988, au moment de l'ouverture du centre d'accueil et de recherche des archives nationales, qu'on appelait le CARAN à l'époque, je venais m'inscrire et j'ai demandé si on ne recherchait pas des vacations pour des étudiants pour l'été, et j'ai été recruté comme ça, comme magasinier pendant 2 mois, pendant l'été 88. Et en fait, je n'ai pas quitté les archives depuis. Alors, je vais peut-être pas vous rentrer dans le détail de mon parcours depuis cette date-là, mais enfin, c'est comme ça que je suis rentré dans la profession. Et donc, d'une façon un peu atypique, je n'ai pas fait l'école des chartes.
Je
sais pas. Aujourd'hui, je suis surtout un gestionnaire de services d'archives. Oui. Puisque c'est quand même un établissement important avec à peu près 70 agents, en gros 67 kilomètres linéaires, et c'est vrai que pour qu'un service comme ça fonctionne, il y a une partie importante du travail consiste à gérer, administrer, manager, encadrer, enfin voilà.
Alors on pourrait dire, Guillaume Nahon, que le cœur au fond de la de cette entreprise humaine que vous dirigez, les Archives de Paris, 70 employés, bah c'est le tri. En fait, c'est ça le cœur, c'est là où on va constituer finalement ce que c'est que l'archive.
Alors, ça n'est pas enfin le mot tri n'est peut-être pas celui qui définit le mieux la première étape de la chaîne. La première étape de la chaîne, c'est l'évaluation. C'est toute la difficulté, c'est de savoir ce qu'on va garder, c'est évaluer les archives pour savoir quelles sont celles qui sont dignes d'être conservées pour l'éternité, puisque notre vocation, c'est de conserver des archives pour l'éternité. Et de ce fait, le travail de l'évaluation consiste d'abord à entretenir une relation très régulière et continue avec les organismes qui produisent les archives au quotidien.
Donc les administrations.
Qui les ont produites, les administrations, mais également des organismes privés, par exemple, essentiellement les administrations. En France, les archives publiques sont vraiment la matière la matière première sur laquelle nous travaillons en priorité, si j'ose dire. Un peu malheureusement, parce que les archives privées sont particulièrement riches également et ne sont pas aussi collectées comme on pourrait le souhaiter, tout simplement parce qu'elles ne sont pas protégées par le code du patrimoine comme le sont les archives publiques.
Oui, on va parler de ça. On va parler effectivement des collectes et de la définition même de l'archive.
Et donc vraiment la porte d'entrée, c'est la relation au quotidien avec les producteurs d'archives, donc les institutions. Et ça démarre avec la collecte, mais c'est également essentiel pendant toute la phase de description des archives, puisque la description des archives s'intéresse finalement davantage au contexte de production qu'au contenu des documents. On a tendance à considérer que le contenu des documents, c'est les usagers, c'est les chercheurs qui vont le découvrir. Nous, on s'attardera davantage dans la description des archives à la description du contexte de production, puisque ça, ce sont des informations qui n'apparaissent pas nécessairement dans les documents et qu'il est nécessaire de documenter pour permettre une critique pertinente des documents.
D'accord, donc on les reçoit, on les nomme, on les
inventorie. On les décrit, on leur donne une cote, comme dans une bibliothèque, et on les classe, évidemment.
Et tout ça, c'est du tri, non? Pourquoi vous vouliez pas que je parle du centre de tri?
Le tri...
Concrètement, le cœur du bâtiment, c'est quand même les grandes salles de tri.
Alors, plutôt que le tri, c'est le classement.
D'accord.
Voilà. Hein. D'accord. Le tri suppose qu'on garde des choses et qu'on en jette.
Mais ce qui est vrai. Aujourd'hui,
alors oui, ce qui est vrai, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la collecte des archives contemporaines, on ne prend en charge que des archives dont on sait qu'elles sont susceptibles d'être conservées de façon définitive. Le tri. Enfin, la sélection, elle est faite en amont. Et c'est notamment dans ce travail de relation étroite avec les services producteurs. Peut-être une chose importante qu'il faut dire, si on aborde la question des usages, c'est que les premiers usagers des archives sont les producteurs d'archives. Et que dans l'énorme majorité des cas, les services d'archives sont créés par les services qui les ont produits.
Alors, donc les administrations.
Les administrations. Donc sous l'ancien régime, les services d'archives, n'existaient pas pour ainsi dire. Enfin, chaque entité, chaque institution gérait ses propres archives. Et donc c'est pour sa mémoire, c'est pour son fonctionnement que les archives sont conservées.
La mémoire de l'État.
La mémoire de l'État, les administrations, ou la gestion quotidienne également, la gestion comptable.
Voilà. Ça vaut aussi pour l'État civil?
Ça vaut bien sûr pour l'État civil.
Est quand même une des grandes affaires que vous
absolument.
Avez administrées.
Oui, oui, oui. Alors, surtout pour les archives communales, en l'occurrence, qui, donc, l'État civil.
Guillaume Nahon, ça représente quoi, d'ailleurs, l'État civil à Paris?
En métrage linéaire?
Oui.
J'ai aucune idée.
Mais en tout cas, c'est... Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est remarquablement bien présenté sur votre site internet.
Ah, d'accord. Bah,
bien
oui.
sûr que j'ai regardé. Parce que c'est d'abord, c'est un précieux portail pour les historiens et aussi pour les usagers. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble, Guillaume Nahon. C'est que d'une certaine manière, on a parlé jusque-là du rapport entre l'histoire et les archives, mais ça ne sert que minoritairement, au fond, à écrire l'histoire, les archives. Ça sert à faire valoir ses droits, ça sert à, d'une certaine manière, satisfaire sa curiosité, ça sert à créer aussi, on va parler de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez de votre salle de consultation? Qu'est-ce que vous voyez de quelle vision vous avez de la société, au fond, qui va aux archives?
Alors, quelle vision de la société qui va aux archives? Je pourrais pas tellement, je pourrais pas le dire avec précision. Ce que je vois quand même très majoritairement, c'est un public de généalogistes. Ça, c'est une passion française qui ne se dément pas.
Vous vous en plaignez?
Absolument pas. Ah, absolument pas. Bien au contraire. D'autant que les généalogistes aujourd'hui sont des usagers qui produisent et qui donc partagent leurs connaissances, partagent les sources qu'ils ont pu consulter, qu'ils ont pu dépouiller, qu'ils ont pu reproduire.
Et malgré donc, tous ces outils informatiques, excusez-moi, voilà. cette numérisation de l'état civil, il y a encore nécessité pour les généalogistes d'aller dans les dépôts d'archives?
Absolument. Pour consulter des documents qui ne sont pas encore numérisés, qui ne sont pas encore accessibles en ligne. Et de toute façon, nos usagers physiques ou numériques sont tous des usagers. Donc, il y a aucune raison de faire une différence entre les usagers physiques et les usagers numériques. Donc, les généalogistes pratiquent vraiment contribuent à l'enrichissement des données et produisent même des sources qui deviennent des sources de première main ou de deuxième main pour les historiens.
Donc, eux, ils sont aussi dans cette catégorie de producteurs usagers, en fait, d'une certaine
Alors,
manière.
Alors, ils sont dans ce que on a travaillé aux Archives de Paris dans le cadre de notre projet scientifique et culturel, un travail sur l'analyse des usages des usagers de l'offre de services publics qu'on pouvait leur apporter et des grandes missions et les relations avec les grandes missions d'un service d'archives. Et en fait, on a catégorisé un petit peu les usagers en trois catégories. Les usagers simples, ceux qui sont en quelque sorte des consommateurs, qui viennent consulter un document, mais qui n'en font rien d'autre que un usage très personnel, très individuel ou ponctuel. Et des usagers diffuseurs, donc ceux-là, c'est ceux avec lesquels on a vraiment envie de travailler, avec lesquels on travaille le plus. Les historiens qui vont publier à partir de nos sources, qui vont contribuer à un accroissement des connaissances importants. Les généalogistes font également partie de ces usagers diffuseurs qui contribuent un peu à disséminer en quelque sorte cette richesse. Et puis on a également des usagers partenaires. Alors ceux-là, ce sont les services producteurs, mais également dans le cadre de nos activités de valorisation, c'est des scientifiques, des historiens, des sociologues, enfin voilà.
Et puis aussi de plus en plus de créateurs, artistes,
voilà,
écrivains,
absolument.
On va en parler,
absolument.
On en parlera demain
absolument.
Avec Isabelle Monin, qui a travaillé notamment sur les archives de naturalisation. Ces archives de naturalisation, d'ailleurs, elles ont été visées par le débat sur les archives essentielles. On parlait du tri, on parlait de cette obligation aussi de sélectionner ce qu'on va conserver. Est-ce que vous pouvez, Guillaume Naon, nous rappeler rapidement de quoi il s'agit? Quel est ce concept, cette pratique et d'une certaine manière, les malentendus qui peuvent, d'une certaine manière, subsister quant à au concept même d'archives essentielles?
Alors, ce concept d'archives essentielles vient de l'archivistique canadienne. L'idée générale consistait à tenter de mieux définir de donner des critères d'évaluation et de sélection plus pertinents à partir d'une technique qui s'appelle la macro-évaluation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très technique, mais qui consiste à évaluer les archives du haut vers le bas et de donc considérer sur une fonction donnée, pour un producteur donné, regarder ce que va produire le sommet de la hiérarchie d'une institution. Et puis analyser les process et vérifier qu'on évite les redondances, parce que une des grandes difficultés, oui, dans l'évaluation et la sélection, c'est que les archives sont extrêmement redondantes. de plus en plus redondante avec l'explosion de la bureautique et de l'informatique.
Par exemple, concrètement, ça veut dire que le même papier peut être imprimé parce qu'il est, il a été diffusé par mail 5 fois dans 5 bureaux différents.
C'est ça ? Absolument. Et tel service qui conduit tel projet va être en relation avec 15 autres services des institutions extérieures et également, qui vont chacune produire un dossier sur le projet en question.
Et donc on en parlait d'ailleurs avec Anne Potin, ça veut dire que la numérisation ne conduit pas du tout à une dématérialisation des archives, mais au contraire, parfois, paradoxalement, à une sorte de prolifération du papier.
Alors, ce n'est pas la numérisation qui conduit à ça, c'est la bureautique, plus
oui,
exactement.
La bureautique.
La numérisation, c'est une autre question. Ce qui pourra peut-être nous sauver dans un délai à moyen terme, c'est la dématérialisation complète des procédures. Mais pour permettre de gérer des archives numériques natives, il faut que la dématérialisation soit complète et pas mixte. Et aujourd'hui, on vit dans une période terrible de production de dossiers hybrides, dont une partie est numérique et une partie est papier.
Oui, mais vous qui êtes, vous dirigez les archives de Paris, Guillaume Naon, donc vous voyez arriver des usagers, il y a des fous littéraires, il y a des rats de bibliothèque, il y a des dingues des archives, donc vous parlez de procédures rationnelles, mais on n'est pas rationnel avec les archives.
Absolument.
C'est-à-dire que quand on commence à dire on va détruire 90% des archives, ce qui est votre travail, enfin pas vous directement, mais en fait c'est le taux en fait de destruction, ça va paniquer tout le monde. Donc, comment on gère, au fond, quand on est un professionnel comme vous, le rapport entre votre pratique, les usages, et puis l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire, on est en train de détruire les archives.
Alors, déjà, le fait de détruire les archives n'est absolument pas une nouveauté. Hein. Dans le débat sur les archives essentielles, ce ratio de 90% que l'on donne généralement, qui est tout à fait, en plus, schématique, hein, c'est plus ou moins, enfin, c'est très variable, on n'a absolument pas rien à changer de ce point de vue-là. Vous imaginez bien que, par exemple, les dossiers de carte grise des véhicules produits dans les préfectures produisent des monceaux et des kilomètres d'archives qui ont peu d'intérêt, mais qui, quand bien même en auraient, leur masse les rend tout à fait inexploitables.
Inusable, oui. Voilà.
Donc en fait, c'est ça, toute la question, elle est là. C'est, et dans l'évaluation, il y a un critère qui est important à prendre en compte, qui est la densité informationnelle. Si je veux dire, c'est un vilain mot, mais c'est très important. Et en fait, on constate que plus le temps passe, et plus cette densité est faible. C'est-à-dire que, prenant l'exemple des minutes des notaires, un mois de minutes notariales parisiennes au XIXe siècle représentait peut-être 10 à 20 centimètres linéaires, aujourd'hui ça va être 1 ou 2 mètres linéaires, si vous voulez. Pour des archives beaucoup moins riches, avec beaucoup moins de contenu. Hein. Si on prend l'exemple des archives notariales, plus le temps passe, plus elles s'appauvrissent. Elles sont beaucoup plus riches au XVIe et au XVIIe siècle qu'elles ne le sont au XVIIIe.
C'est-à-dire que là, l'information est très diluée aujourd'hui.
L'information est extrêmement diluée, et puis les notaires ont une activité aussi beaucoup plus stéréotypée et beaucoup moins variée qu'ils pouvaient l'avoir sous l'Ancien Régime, par exemple.
Oui, mais vous comprenez, Guillaume Naon, qu'au fond, le choix, parce qu'on fait des choix aussi, on décide de garder, je sais pas, toutes les copies du concours général, parce que ça reste patrimonial, alors qu'au fond, on pourrait aussi faire des tris, là aussi. Ce choix, il est pas seulement technique, il est politique, c'est-à-dire que ça décide de ce que c'est que la mémoire sociale d'une nation. Et c'est une question qui est peut-être soumise aussi à débat démocratique, non ?
Oui, absolument, Patrick Boucheron. D'ailleurs, c'est ce que dit Yann Potin, hein, les archives sont le passé du futur, et c'est tout à fait vrai, au point qu'on a encore aujourd'hui des pratiques de sélection ou de tri ou d'échantillonnage qui sont aberrantes et enfin qui tendent à disparaître, heureusement. Mais par exemple, l'exemple le plus absurde est la conservation des dossiers individuels, sur des critères alphabétiques, les lettres B et T, et notamment cette méthode-là, elle est fondée sur l'historiographie
ancienne,
Jacques Dupaquier, l'enquête sur les Trats, etc. Et dans les années 90, voire 2000, on continuait à sélectionner tous les dossiers en B, tous les dossiers en T.
Donc, ce qui ne rend plus compte de la diversité de la population
évidemment,
française.
Évidemment, ce qui ne rend plus compte de la diversité de la population française et qui, en plus, ne correspond à un usage des archives qui a tendance à disparaître complètement. L'histoire quantitative, l'histoire sérielle qui, justement, s'appuie sur le dépouillement d'archives sérielles, tend à disparaître au profit d'utilisation beaucoup plus importante de données personnelles.
Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique?
Alors, j'ai choisi quelque chose, sans doute. Oui. J'ai choisi une chanson de Serge Gainsbourg, écrite pour Régine en 1965, qui sont Les Petits Papiers.
On l'écoute.
Papier, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout, laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon. Puis-il un soir, papier buvard, vous consolez...
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Qui a bien des scrupules à interrompre Régine et Serge Gainsbourg, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour parler avec Guillaume Nahon des petits papiers des archivistes. Vous nous avez amené cette chanson parce que elle n'amène pas que des bons souvenirs, au fond.
Alors là, en l'occurrence, elle n'amène pas que des bons souvenirs et ces paroles, cette chanson que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup, je l'ai entendue par hasard après, au moment même où nous collections les documents des mémoriaux éphémères après le 13 novembre 2015. Et le premier couplet de cette chanson nous dit « Laissez parler les petits papiers, je coupe, puisse-t-il un jour vous consoler ?» Et on était complètement cette émotion, le fait que ce geste même de déposer des messages, d'écrire des messages, d'écrire des dessins et de les déposer sur les lieux des attentats était en soi un acte qui consolait les gens. Et le travail qu'on a fait, nous, était aussi une forme de consolation. Et je pense que ça a contribué beaucoup au deuil, à la consolation. Et pour nous, archivistes, ça a mis en relief un critère d'évaluation des archives. Je reviens encore sur cette question de l'évaluation, qui est la charge émotionnelle. Ce critère-là, il était important, il correspondait à une demande sociale forte, une demande sociale exprimée par la population, exprimée par les édiles, exprimée par les médias et également exprimée par les scientifiques.
C'est le dernier numéro de la Gazette des Archives, le numéro 250 de l'année 2018, qui est consacré, Guillaume Nahon, à la mise en archive des réactions post-attentat, enjeux et perspectives. Vous en avez coordonné les travaux et ça parle exactement de ça. Au fond, c'est de cette collecte émotionnelle, est-il écrit dans plusieurs des contributions. La collecte, elle est rationnelle par définition, vous nous en avez décrit les procédures, mais on a compris aussi à vous entendre qu'on n'est pas toujours rationnel avec les archives, et que là, il y a quelque chose de tout à fait particulier, un besoin consolant de mémoire. Comment vous avez été saisi de cette question ?
Alors, j'ai été saisi de cette question par une commande très simple et immédiate de la municipalité qui faisait suite à une interpellation de Jérôme Truc, un sociologue qui a travaillé sur la sidération, qui a publié un ouvrage qui a fait sa thèse en fait sur les réactions aux attentats de Londres du 11 septembre à New York, de Londres et de Madrid, et qui dès le 16 novembre, il adresse un message à Marc-Christine Le Mardelet, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur, et il souligne le fait que ce travail de collecte n'a pas été réalisé après les attentats de janvier à Paris, alors qu'il l'avait été dans d'autres villes de France. Et donc,
c'est-à-dire que tous les petits papiers, justement, qui avaient été collés sur le socle de la statue de la République, notamment.
Exactement.
Mais pas seulement les papiers.
Mais pas seulement les dessins,
les photos, les peluches,
tous ces objets-là, n'avaient pas fait l'objet d'un protocole d'archivage systématique après les attentats de janvier 2015. Et là, il saisissait la ville pour que la ville s'empare de cette question et trouve des solutions pour préserver et rendre accessibles ces matériaux.
Rendre accessibles aussi d'ailleurs les lieux mêmes où ils étaient exposés, parce
absolument.
Que ça posait des problèmes de...
Tout à fait. Alors ce travail a été, de ce point de vue-là, tout à fait original, puisque et complètement inédit, puisqu'il était à la fois question de collecter des documents, mais également d'entretenir les mémoriaux. On a travaillé avec les services de la propreté de Paris, donc archivistes et éboueurs main dans la main sur les lieux des attentats. Alors pour le coup, on se penchait vraiment sur les archives puisque on était vraiment dans la rue à les ramasser. Mais ce travail s'est fait progressivement avec des interventions successives qui consistaient autant à prélever les documents les plus en danger qu'à entretenir les mémoriaux aussi longtemps que durerait la période de deuil. Alors la période de deuil, on ne savait pas combien de temps elle allait durer. D'une certaine façon, elle a duré un an pratiquement. Ce travail a permis, au bout du compte, de collecter 7700 documents. Et également des objets, dont une partie des objets a été également collectée par le musée Carnavalet, musée d'histoire de Paris, pour en permettre la conservation et l'accès.
Et dans ce numéro de la Gazette des Archives qui est consacré à la mise en archive des réactions post-attentat, il y a aussi le cas intéressant, j'ai trouvé, étudié par Marion Duvigneault de Nice, du 14 juillet 2016. Là, il y a la collecte des hommages qui sont déposés au kiosque à musique. Et là, c'est une collecte sous tension, écrit-elle, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte politique et social. Et c'est quelque chose de très poignant, au fond. C'est-à-dire, on voit que le geste même d'arracher au monument ces papiers collés, eh bien, est aussi vécu par certains comme une agression.
Absolument. Alors Marion Duvigneault, en plus, décrit bien une forme d'engrenage mémoriel. C'est-à-dire que autant à Paris, les choses se sont passées dans une espèce de fluidité où toutes les choses se sont passées d'une manière extrêmement simple. Toutes les procédures administratives qui habituellement sont très complexes, là, tout d'un coup, les choses devenaient beaucoup plus simples. Dans le cas de Nice, on est dans un contexte politique complètement différent et la tension est vraiment forte et l'enjeu mémoriel et devient un engrenage mémoriel. C'est ça qu'elle décrit.
Et il y a des photos très impressionnantes où on voit des huissiers en grande tenue démonter au fond ce mémorial improvisé,
absolument.
Enfin, plus ou moins improvisé d'ailleurs, qu'est le kiosque à musique, et amener des caisses avec une sorte de solennité qui en fait une presque une cérémonie laïque.
Oui, tout à fait. Alors, c'est en contraste absolu avec ce qu'on a pu faire à Paris, où au contraire, on a fait ça d'une manière absolument simple, je veux dire, sans aucun formalisme particulier, et qui, en plus, avec des réactions très positives de la population, et des réactions qui allaient dans les deux sens. Des gens qui nous disaient « c'est très bien de garder ça », et d'autres qui nous disaient « c'est très bien de nous débarrasser de ces mémoriaux qui ont un caractère particulièrement oppressant ». Je pense que vous avez peut-être vu le travail de Sarah Gainsburger sur le Bataclan. Donc, on a travaillé avec elle vraiment au quotidien à ce moment-là, avec elle et Maëlle Bazin et Jérôme Truc, évidemment. Elle habite le quartier du Bataclan. Donc, elle était au quotidien. Elle amenait ses enfants à l'école et elle passait devant le Bataclan et devant ses mémoriaux éphémères tous les jours. Et elle considérait, d'une certaine façon, que il y avait quelque chose de difficile à vivre, surtout pour des enfants, etc. Et donc ce travail, on l'a mené comme ça, c'est-à-dire que à la fois il fallait préserver ces choses et en même temps réduire progressivement l'emprise des mémoriaux sur la voie publique. Et d'une certaine façon, quand bien même les archives n'auraient pas eu d'intérêt,
il fallait le faire,
absolument. Donc il fallait le faire, c'était nécessaire. Et ce travail d'archivage était en fait quelque chose contribuait en quelque sorte à la gestion de la crise et contribuait à la réparation des quartiers attaqués.
Et déplacer le mémorial au fond, parce que vous montrez bien comment dans ce livre, enfin c'est ce numéro de revue, comment en démontant ces mémoriaux de papier, on en construisait d'autres, des livres par exemple, Guillaume Naon qui faisait d'une certaine manière des recueils, des tombeaux littéraires.
Absolument, c'est absolument ça. Donc ce livre a été publié pour le premier anniversaire du 13 novembre. Et effectivement, c'est un recueil d'une sélection d'à peu près 1000 documents avec quasiment pas de texte. Enfin, il y a une préface de la maire de Paris. Moi, j'ai juste commis un texte très court pour expliquer simplement le travail comme une forme d'avertissement, en quelque sorte, une petite introduction. Et ça c'est un objet qui se suffit en lui-même. C'est un mémorial de papier. C'est pas du tout un livre d'histoire.
Et puis il y a aussi d'autres rebonds. C'est décidément un métier plein de surprises et d'imprévus, hein, que celui d'archiviste. Donc après coup, on se rend compte que finalement, la rédaction de Charlie Hebdo, elle a aussi reçu plein de courriers et on les archive. Et puis on se rend compte aussi que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux et ça aussi, il faut l'archiver. Mais on n'est pas du tout dans la collecte émotionnelle parce que dans les réseaux sociaux circulent pas seulement des messages agréables. Et donc là encore, il y a cette question du dépôt légal, c'est-à-dire on prend tout, on ne juge pas.
Absolument, absolument. Oui, alors on ne juge pas, on prend les choses telles qu'elles se présentent. Sinon, ça enlèverait toute valeur au corpus constitué.
Je disais que ce métier d'archiviste, Guillaume Naon, est plein d'imprévus. Est-ce que vous vous attendiez lorsque vous étiez étudiant d'histoire et que, comme ça, comme vous nous l'avez raconté, de manière pas à pas, vous vous approchez des archives, vous vous attendiez à travailler avec des artistes comme vous l'avez fait et comme vous le faites de plus en plus?
Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivé à cela quand j'étais directeur des archives départementales du territoire de Belfort, où j'avais également la nécessité de commémorer, enfin la demande de la collectivité était de valoriser la mémoire d'une grande entreprise de Belfort qui est la société Alstom, dont l'ancêtre est la société alsacienne de construction mécanique, et les archives départementales du territoire de Belfort conservent les archives de cette entreprise, donc des archives complètement privées. Et il y avait une volonté d'organiser une exposition sur ce sujet. Et je me suis un peu creusé la tête. Je suis pas, à titre personnel, je devrais pas dire ça comme archiviste, mais à titre personnel, je ne suis pas un grand fan des expositions de l'histoire. Mmh. Et quand je vais voir des expositions, moi, personnellement, je vais plutôt voir des expositions de peinture, d'art, de sculpture, etc. Bref. J'ai un peu tendance à considérer que l'histoire se lit plus qu'elle ne se regarde, et que c'est toujours délicat. Alors il y a de très très belles expositions d'histoire. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin voilà. Et je sentais surtout que l'enjeu mémoriel local, hein, dans une ville où Alstom avait été quasiment dans une situation d'employer une partie très importante de la population. C'est une ville où tout le monde soit travaille à Alstom, soit a travaillé, soit un parent, un conjoint. Enfin, c'est quelque chose de très important. Et la mémoire de cette entreprise colossale, qui était en crise à cette époque-là, était quelque chose de terrible, enfin de vraiment d'important. Et il fallait éviter le pathos, il fallait éviter cette forme de commémoration un petit peu crispée, un peu et j'ai tout à fait par hasard écouté Catherine Poncin, donc cette artiste photographe qui a présenté à ce moment-là une exposition au Théâtre du Granit à Belfort et qui expliquait sa démarche qu'elle appelle de l'image par l'image. Et je me suis dit, mais c'est parfait, ça colle parfaitement à ce que je veux faire. Et je lui ai confié, donc carte blanche, je lui ai confié 3 albums photographiques édités au début du XXe siècle, dont elle a fait une très belle exposition qui évoque le passé de cette entreprise, mais qui l'évoque d'une façon poétique et artistique, qui permettait justement, tout en valorisant la mémoire de l'entreprise, d'éviter cette espèce de crispation mémorielle qui était peu intéressante. Voilà.
Donc le texte est paru sous le titre « Éloge de combat ordinaire » avec un texte de Magali Jouffray. Et vous avez retrouvé Catherine Poncin, toujours dans cette démarche artistique qui est la sienne de réinventer les archives, au fond, ou de les créer. Guillaume Nahon, vous l'avez retrouvé dans le cadre de la collecte de 14-18, en fait.
Alors, dans le cadre de la commémoration de 14-18, où, encore une fois, ce qui est assez classique dans les services d'archives, commande de la collectivité de s'inscrire dans la commémoration par une exposition.
Mais vous êtes alors en Seine-Saint-Denis.
Et je suis alors en Seine-Saint-Denis. Et la Seine-Saint-Denis n'existe pas en 1914.
Donc vous ne voulez pas faire une exposition
sur quelque chose qui n'existait pas en 1914. Absolument. Je ne voulais pas commettre le péché des historiens qu'est l'anachronisme, hein, Lucien Febvre. Et donc, j'ai un peu par facilité contacter Catherine Poncin, avec laquelle j'entretiens des relations d'amitié depuis qu'on s'est rencontrés à Belfort, et je lui ai confié un corpus de cartes postales écrites ou publiées entre 1914 et 1918, donc qui venait d'une collection constituée par les archives de la Seine-Saint-Denis depuis de nombreuses années, donc une collection très riche dont elle s'est emparée, et elle a travaillé à la fois sur les images et sur les textes, hein, qui étaient au verso des cartes postales.
Elle a travaillé recto verso.
Exactement.
Et donc, l'exposition, puis le livre s'appelait 14-18, écho, verso et graphie de bataille. Et là, on est quand même dans une réécriture ou une réinvention graphique, visuelle, artistique des archives. Ça vous paraissait nécessaire d'une certaine manière pour s'emparer de ce matériau et le faire vivre vraiment?
Absolument, absolument. Quand vous pourrez, si vous avez l'occasion de lire le livre, il y a aussi un texte de Michel Poivert qui, quand il parle du travail de Catherine Poncin, dit qu'en fait, elle présente une espèce de passé amplifié. Avec une grande liberté, avec tous les anachronismes possibles, enfin ou pas. Enfin, elle recompose, elle décortique, elle décompose, elle recompose des images et elle en fait quelque chose de une création de complètement neuf. Et qui, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'au bout du compte, une fois le travail réalisé, le sentiment que j'avais, c'est qu'elle était finalement pas si loin que ça de la réalité de 14-18 dans ce territoire de banlieue, et en tous les cas qu'elle était certainement beaucoup plus proche de cette réalité, enfin si tant est qu'elle existe, que l'aurait été une exposition d'histoire classique.
Oui,
classique.
Doit, en voilà. fait, elle réinventait pour elle rendre
réinventait
visible.
Elle réinventait pour rendre exactement pour rendre visible et compréhensible.
C'est le cas aussi de Mathieu Pernot, avec alors, qui vous avez travaillé.
Alors
photographe.
Non, je n'ai pas encore travaillé avec Mathieu Pernot, mais j'aime beaucoup son travail. Et en fait, ce qui m'intéressait là très particulièrement, très récemment, c'est le travail qu'il a conduit à la maison d'arrêt de la santé. Alors ça m'intéresse pourquoi ? Parce que les archives de la prison de la maison d'arrêt de la santé sont naturellement conservées aux archives de Paris. Donc avec tous les registres d'écrou, tous les registres d'écrou, les registres d'entrée et de sortie, les dossiers de détenus, etc. Donc toute la vie de cette maison d'arrêt est consignée dans ce fonds d'archives qui est un fonds particulièrement riche, comme les autres fonds des archives des prisons parisiennes. Et Mathieu Pernot, alors même que nous, enfin moi j'étais pas encore là à ce moment-là, mais quand la maison d'arrêt de la santé a été en travaux et où tous les détenus sont partis, les archives de Paris, de façon assez classique, sont intervenues pour collecter ce qui restait à collecter des archives de la maison d'arrêt. Et Mathieu Pernot, lui, a travaillé à une production, une création artistique sur la maison d'arrêt de la santé, et qui a débouché sur une exposition qui vient de s'achever au 104. Et chose tout à fait passionnante, il a récupéré dans les cellules vides des images, des documents collés au mur.
Il a lui aussi décollé
des petits papiers et il les a représentés dans cette exposition au 104. Et en plus, il l'a fait d'une façon très archivistique puisqu'il a complètement respecté la topographie des lieux, et il a présenté dans cette exposition toutes ces images qui, en quelque sorte, constituent une espèce de portrait en creux des détenus qui occupaient ces cellules. Et ça se donne quelque chose de tout à fait
magnifique
et qui s'accompagne aussi des photographies de la prison elle-même. Voilà.
Mais dites-moi, les créateurs qui font de l'art avec les archives, ils produisent eux-mêmes des archives qui sont les archives de la création.
Voilà, absolument.
On n'a jamais fini, Guillaume. Non.
Absolument. Et moi, je ne désespère pas que Mathieu Pernot, un jour, nous donne les petits papiers qu'il a récupéré à la prison de la santé.
Merci Guillaume Naon.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Guillaume Naon, Claude Niort, Catherine Donné, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, je reçois un écrivain, Isabelle Monin, qui réinvente les vies des gens dans l'enveloppe, qui, elle aussi, est la romancière des petits papiers. Bonne soirée. We'll be right back.